jusqu'à la fin du mois d'août, je vous propose de vous rafraîchir la mémoire en vous offrant quelques-unes de vos émissions préférées issues de nos archives.
La marche du monde.
Il s'appelle Bakary Diallo, il est l'un des tout premiers tirailleurs sénégalais à avoir écrit son histoire. Mais aujourd'hui sur RFI, c'est sa voix que vous allez pouvoir entendre. Une archive sonore rare et exceptionnelle, restaurée par RFI.
Nous sommes embarqués à Casablanca, on s'est débarqué à sec, comme des tirailleurs sénégalais. Mais là, on nous a dirigés directement sur le front.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
La voix de Bakary Diallo, tirailleur africain, engagé en 1914 et dans la marche du monde, grâce à vous, Marc Michel. Bonjour et bonjour. Un grand merci.
Bonjour Valérie.
Vous êtes professeur émérite à l'Université de Provence et membre de son Institut d'études africaines, spécialiste de l'Afrique contemporaine et des tirailleurs africains dans la Grande Guerre et l'un des tout premiers historiens. Vous intéressez à ce sujet dès la fin des années 60, à une époque où l'on peut encore rencontrer des tirailleurs africains qui ont fait la Grande Guerre, Marc Michel.
Oui, c'est exact. Et d'entendre la voix de Bakary Diallo, comme on dit assez vulgairement, c'est émotionnant. Près de 50 ans après l'enregistrement de son interview en 73. Effectivement, Bakary Diallo a une vie étonnante, exceptionnel, et à sa mort en 1979, on aurait pu imaginer que quelque chose soit organisé autour de lui. Il n'a pas été oublié, loin de là, mais il n'a pas laissé peut-être la mémoire que l'on pouvait espérer à l'époque.
Alors c'est l'occasion aujourd'hui de se souvenir sur RFI de Bakary Diallo, surtout que les voix, les enregistrements des tirailleurs africains qui ont fait 14-18 sont rarissimes. Mais avant d'écouter plus longuement le témoignage inédit de Bakary Diallo, Marc Michel, je vous propose que l'on revienne sur les circonstances dans lesquelles les Africains se trouvent projetés dans l'engrenage de la Grande Guerre, puisque c'est le titre de votre dernier ouvrage, paru aux éditions Cartala. La Grande Guerre, c'est bien une guerre de blancs, une guerre entre puissances européennes, avec les Français, les Anglais, les Belges d'un côté et les Allemands de l'autre. Et vous montrez, Marc Michel, que ces adversaires en Europe deviennent des adversaires en Afrique. Alors pour quelles raisons et pour quel enjeu ?
Voilà, c'est une question très difficile, mais je relèverai une observation extrêmement juste. À mon sens, c'est qu'ils ont été projetés, ces Africains, dans la guerre. Évidemment, personne ne s'attendait à une guerre de ce type, et une guerre qui durerait 4 ans au lieu de 4 semaines. Une guerre qui ferait des millions de victimes au lieu de faire quelques dizaines de milliers de victimes, puisque si on pense ne serait-ce qu'au cas français, il y a eu tout de même, au sortir de la guerre, un bilan de 1 400 000 morts de la guerre. Bon, pour l'essentiel d'ailleurs, des soldats, ce sont des soldats. Les civils ont payé beaucoup moins que la Seconde Guerre mondiale. Et les Africains là-dedans, oui, ils ont été projetés dès le début de la guerre, aussi bien dans la guerre en Europe que dans la guerre en Afrique. C'est pourquoi ils sont devenus adversaires, malgré eux, en Afrique, pour la conquête des colonies allemandes, convoitées du moins dès le début de la guerre par les Alliés.
Voilà, donc l'enjeu est bien territorial pour ces empires coloniaux qui veulent gagner du terrain, qui veulent se battre les uns contre les autres, soit pour conserver leurs colonies, soit pour gagner les colonies de l'autre, et notamment des Allemands, ce qui concerne les Français et les Alliés. Alors je vous propose d'écouter sur cette question le doyen des historiens maliens, le professeur Kamian Bakary. À 86 ans, il est le plus réputé des historiens du Mali. Et au micro de notre correspondant David Baché, il revient sur la question du recrutement des Africains.
Le grand problème, ces hommes qui ont été recrutés, qui sont partis par la force, ont été transplantés dans des conditions particulières. Ils ne savaient ni la langue du pays, ni la géographie du pays, le climat, la pluie, la neige, le froid. Le froid les a souvent empêchés de se battre. Et dans certaines mesures, on a obligé certains chefs de canton, certains chefs locaux, d'encourager le recrutement des chefs en leur donnant des galons une fois qu'ils arriveraient sur le sol national français.
Qui est-ce qui a fait ces choix ?
Quand on a demandé à un chef de donner 5 soldats, il donne ceux qui étaient disponibles. Ils donnent avant tout les hommes de caste, les gens de basse condition, avant d'envoyer ses propres enfants. Et cela a permis quand même aux gens de différentes régions du Mali de se connaître, de mieux s'apprécier, de savoir qu'ils sont du même pays. Et ils ont les mêmes problèmes, les mêmes intérêts à défendre.
Départs volontaires, mais aussi des recrutements forcés, nous dit le professeur Camion Bakary. Des recrutements forcés qui ont suscité des mouvements insurrectionnels, des rébellions pendant plusieurs mois.
Ces rébellions ont duré plusieurs mois au Mali ici. Et on a envoyé le commandant Kaye pour mater cette rébellion. Et le 16 juin 1915, José, qui était le commandant en chef des troupes de la rébellion du Bledougo, José s'est suicidé avec son fils. La rébellion s'est éteinte.
Mais elles se sont éteintes après combien de morts?
Environ 2 à 3 000 morts. Tandis que ce qu'on appelle communément la révolte de Bobo et de Marka, qui concerne le Burkina et le Mali, les révoltés étaient autour de 600 000. Et il y a des gens qui préfèrent les sentir vivants dans les tombes plutôt que de s'y rendre.
Du recrutement de la guerre de 14-18, les Français n'ont pas été cherchés partout, ils ne sont pas allés dans le nord du Mali.
Non, les hommes du nord, les nomades du Mali, Touareg, Mor, Kunta, ils n'ont pas été mobilisés. Il n'y a pas un seul ancien combattant nomade, pas un seul Touareg, pas un seul Arabe.
Les Français avaient peur qu'ils se rebellent?
Ils avaient peur des rébellions. Et ces rébellions sont arrivées en 1915 dans la région de Gao, à la frontière Mali-Niger. Et vous savez, le Mali et le Niger faisaient partie de la même colonie, le Soudan français.
Pas de recrutement forcé dans le nord du Mali, nous dit l'historien Bakary Camion, Marc Michel. Et par ailleurs, est-ce que ce que décrit Bakary Camion en ce qui concerne les révoltes, est-ce que c'est emblématique en ce qui concerne les refus des Africains de partir à la guerre?
En écoutant le professeur Camion Bakary, évidemment, on ne peut que souscrire à l'essentiel de tout ce qu'il a dit, d'autant plus qu'étant malien lui-même et fils de tirailleurs, il est affectivement impliqué dans cette histoire. En réalité, elle est très compliquée. Et s'il y a eu, au début de la guerre, des engagements volontaires dans l'enthousiasme des premières semaines, je dirais même des toutes premières semaines. S'il y a eu tout au long de la guerre également des engagements volontaires, il y a eu surtout des refus. Ils n'ont pas concerné le Mali seulement, le Mali actuel, pour la bonne raison que le Mali actuel n'existait pas, mais qu'il existait une très grande colonie qui s'appelait le Haut Sénégal et Niger et qui couvrait ce qui constitue aujourd'hui le Mali, le Burkina Faso, et même quelques cercles et quelques, disons, préfectures, puisque c'est l'équivalent de Guinée. Cette énorme colonie comprenait évidemment les populations concernées par la révolte évoquée par Bakary Camion. Cette révolte qu'on appelle la révolte du Bélédougou, c'est une révolte d'une zone peuplée essentiellement de Bambara. Et à cet égard, c'est la première révolte armée, mais ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y avait pas eu de refus auparavant. Dès la fin de 1914, même au Sénégal, lieu de recrutement traditionnel des fameux tirailleurs sénégalais, même au Sénégal, il y a des phénomènes de refus, des refus qui se manifestent à travers la fuite en brousse. Les jeunes gens fuient les commissions de recrutement, se cachent, les femmes pleurent. Il y a des manifestations de femmes qui se disent « on a perdu nos fils, on a perdu éventuellement nos époux » parce que partir au loin comme ça, au-delà de la mer, c'était évidemment la fin définitive dans leur esprit de leurs parents.
Thank you. Alors, ce qui est très intéressant, Marc Michel, c'est que notre grand témoin, le tirailleur sénégalais Bakary Diallo, lui est parti de son plein gré, il s'est engagé. C'est ainsi, tout du moins, qu'il vous a présenté son départ pour la Grande Guerre. Nous allons avec vous remonter le temps, Marc Michel. Nous sommes au Sénégal, au village de Mbala, en 73, et vous questionnez Bakary Diallo sur son entrée dans l'armée française. Voici comment Bakary Diallo vous explique son engagement dans la ville de Saint-Louis, au Sénégal.
Pour s'engager, je suis arrivé à Saint-Louis. J'ai resté à Saint-Louis. Et puis un jour, on s'est rendu place Fédère. Et il s'est trouvé à l'instant que une compagnie de tirailleurs sénégalais qui était en manœuvre vers Ndiodoune, etc., ils rentraient pour aller au quartier, le premier régiment de tirailleurs sénégalais, là-bas, dans le nord. Ils venaient comme ça, la musique, les officiers à cheval, les soldats au pas, tac, 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 la musique. On a regardé ça comme quelque chose d'extraordinaire. Et qui nous a émerveillés, et qui nous a plu. Le lendemain, nous sommes allés nous présenter au camp du premier Sénégalais. On arrive, bonjour. Alors, ils nous demandent qu'est-ce que nous voulions. Nous disons, nous voulons nous engager. Alors, nous étions reçus, comme tirailleurs, et pour 4 ans.
Alors, quand vous êtes arrivé en France, vous étiez dans quel régiment ou dans quel bataillon?
Je suis parti en France avec le 7e bataillon de tirailleurs sénégalais.
Oui. Vous avez embarqué
on
à Casablanca.
On a embarqué à Casablanca. On s'est débarqué à Sète.
Oui.
Voilà. Là, on a resté là un peu et puis on est parti directement sur le front. On a commencé à se
débarquer à
Arras. Mais nous nous sommes embarqués à Casablanca. On s'est débarqué à Sète. De là, on nous a dirigé directement sur le front.
L'engagement de Bakary Diallo, tel qu'il vous l'a raconté, Marc Michel, dans son village, à Mbala, sous l'arbre. À Palabre, on imagine la scène, on entend le mil qui est pilé à côté, les enfants.
C'est une scène que je me remémore. Il faisait chaud, mais c'est cette chaleur du soir, la chaleur tombante, avec une espèce de douceur tout de même, et Bakary qui parlait. C'est très émouvant de le réécouter. Faut que je précise une chose quand même, c'est que Bakary appartient à une génération très différente de la génération des tirailleurs de la Première Guerre mondiale, parce que Bakary s'est engagé volontairement et que la majorité, l'immense majorité des soldats de la Première Guerre mondiale ne se sont pas engagés, ce sont des conscrits, des soldats d'office.
On l'a on a entendu sa fascination pour l'uniforme, voilà. Son comportement est très singulier.
Avant 1914, il y avait une fascination pour le tirailleur bien habillé, pouvant parader, le tirailleur qui était tout de même bien nourri aussi. Et puis, quelque chose qui n'est pas entendu ici, c'est que Bakary, si je me souviens de cette interview, ajoute « Ah, mais j'étais un mauvais berger ». Et c'est très important parce que le professeur Camur Bakary dit à un moment donné qu'on désignait des gens de basse condition. Ça voulait dire des captifs, des esclaves, disons les choses, et puis des gens que l'on considérait comme indésirables ou des mauvais travailleurs. Et Bakary, il n'avait pas la vocation d'être berger, il a vu ces beaux tirailleurs défilant et il est enthousiasmé.
Alors avant de partir sur le front, Bakary Diallo passe par le Maroc, Marc Michel.
Au Maroc, vous avez été avec... Vous étiez mélangé avec des troupes blanches ou...
Non, on était des troupes sénégalaises, commandées comme régiment par un colonel et des commandants.
Et les bataillons n'étaient pas mélangés, des bataillons?
Non, il y avait des unités sénégalaises et des unités françaises, européennes.
Ils combattaient
qui allaient toujours ensemble, pas mélangés par compagnie directement.
Au Maroc, les femmes suivaient les troupes sénégalaises.
Les femmes
des femmes de tirailleurs sénégalais.
Ah oui, mais ça, si ne nous suivaient pas quand nous étions en guerre.
Oui.
Elles campaient.
Elles faisaient des villages.
Oui, oui. Elles. Je les ai vues là, à Fès, à Meknès. C'est là que j'ai vu les femmes tirailleurs sénégalais.
Qui étaient d'abord les femmes soldats.
Une femme soldat.
Une femme soldat. Elle faisait le coup de feu?
Ah non, seulement, elle n'avait pas peur d'encourager le soldat, elle avait un coup de peur.
Certaines femmes, donc. Africaines, notamment sénégalaises, ont accompagné, en tout cas, tant qu'ils sont restés en Afrique, les tirailleurs. Marc Michel.
Oui, effectivement, avant 1914, quand il s'agissait des campagnes, des colonnes en Afrique, de conquête, puis les soldats, il y en avait quand même 12 000 qui ont été envoyés au Maroc, c'est assez considérable dans le contingent total du Maroc, puisque on comptait à peu près 80 000 hommes au Maroc en 1914, donc 12 000 tirailleurs sénégalais. On a toujours admis dans le commandement qu'ils pouvaient se faire accompagner par des moussous, des femmes, qui créaient des véritables villages, des coopératives également d'achat de produits pour les soldats sur place. Mais évidemment, dès la guerre de 14, en Europe, il n'en était plus question.
D'autre part, Bakary Diallo insiste bien sur le fait que les soldats noirs et blancs ne sont pas mélangés. Ce sont des bataillons différents, nous dit-il. Mais vous, Marc Michel, en tant qu'historien, quelles sont les autres différences de traitement que vous pouvez nous expliquer entre les soldats blancs et les soldats noirs, majoritairement ?
Alors, ça c'est une question extrêmement difficile, mais effectivement, les bataillons de tirailleurs sénégalais n'ont jamais été amalgamés compagnie par compagnie dans des unités de marche, c'est-à-dire des régiments de marche, en Europe. En Afrique, bien entendu, ils constituaient la masse des soldats commandés par des officiers et sous-officiers blancs. En Europe, ils n'ont pas été mélangés aux soldats d'infanterie territoriale ou d'infanterie d'active, ils ont combattu côte à côte. C'est différent. C'est-à-dire que dans des opérations, les bataillons pouvaient être côte à côte, un bataillon noir, deux bataillons blancs, ou l'inverse, un bataillon blanc et deux bataillons noirs.
Avaient-ils les mêmes équipements, Marc Michel ?
Ils avaient les mêmes équipements, absolument. Ils participaient aux mêmes opérations, si bien que dans les opérations, ils s'établissaient naturellement une espèce de solidarité entre soldats. À l'arrière, ils étaient complètement séparés, puisqu'à l'arrière, les tirailleurs étaient dans des camps dits d'hivernage.
Restez à l'écoute de La Marche du Monde pour découvrir avec nous le récit inédit de Bakary Diallo, un document sonore exceptionnel restauré par RFI, un témoignage rarissime, celui d'un tirailleur africain de 1914, Bakary Diallo. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale et retrouvez Bakary Diallo juste après les infos sur RFI.
D'ailleurs, même au Maroc, faisait les tranchées. Alors, il fallait faire les tranchées. Et alors, quitter les tranchées pour contre-attaquer. On faisait la guerre.
La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
La voix de Bakary Diallo dans La Marche du Monde. Bakary Diallo est un tirailleur africain de la Première Guerre mondiale. Un document rare et inédit que nous sommes très heureux de partager avec vous sur RFI. Un enregistrement réalisé par l'historien Marc Michel, notre invité. Dans La Marche du Monde, il a réalisé cet enregistrement dans les années 70 au Sénégal. Marc Michel, j'imagine que c'est avec une immense curiosité que vous avez rencontré à l'époque Bakary Diallo. Racontez-nous dans quel état d'esprit vous êtes arrivé dans ce village et comment ça s'est passé à Mbala.
Il faut que je précise tout de même que j'étais à l'époque, je faisais ma thèse et je cherchais des témoignages d'anciens tirailleurs. En ce qui concerne Bakary, j'avais été mis sur la piste par le directeur des archives du Sénégal à l'époque, Monsieur Jean-François Morel, et qui connaissait la filière pour atteindre Bakary. Alors, ça a été avec une immense émotion, une curiosité très grande, avec certaines idées préconçues. Par exemple, je voulais lui faire dire que le général Mangin était un assassin. Il m'a repris en me disant « Mais vous êtes un petit jeune qui ne connaissait rien.
» Nous allons donc l'écouter tout au long de cette émission, tous attentifs. Nous sommes avec vous, Marc Michel, sous l'arbre à Palabre. C'est un grand moment de radio. Bakary Diallo évoque ses premières opérations militaires, ses premières expériences combattantes au tout début de la guerre de tranchées. Nous sommes en 1914.
Est-ce qu'il y a eu, dans ces premières opérations là, auxquelles vous avez participé, il y a eu beaucoup de pertes?
Ah ben, il y a eu toujours de pertes.
Beaucoup plus. Est-ce qu'à votre avis, il y en avait plus?
Oui, beaucoup, parce que quand on perd une âme, c'est déjà beaucoup.
Oui,
à plus forte raison de pertes militaires. Puis alors, les Allemands aussi, ils ont dû subir quelque
part. Mais vous étiez...
Naturellement, parce que c'était la guerre en ce moment-là. C'était les attaques contre les attaques.
Et vous étiez avec des bataillons blancs à cette époque?
Ah non, j'étais un tirailleur sénégalais.
Mais à côté de vous, il n'y avait pas des bataillons?
Et à côté de nous, il y avait les Zouaves.
Les Zouaves, ah oui.
Il y avait les Zouaves, et puis alors, il y avait les troupes aussi, les troupes blanches, hein, qui étaient à notre gauche.
C'était quoi? C'était...
Les Zouaves étaient à notre droite, les troupes blanches étaient c'était à notre gauche.
Des métropolitains?
Des métropolitains, des Français, je crois. Et nous, nous étions là, comme des tirailleurs sénégalais.
C'était pas encore des tranchées à ce moment-là.
Tranchées,
c'était déjà des tranchées.
Ah, oui, c'est toutes tranchées. Nous sommes venus aussitôt nous avons fait des tranchées. Vous savez que les tirailleurs, même au Maroc, faisaient des tranchées.
Oui, je sais.
Mmh. Il fallait faire des tranchées. Qu'est-ce et alors quitter les tranchées pour contre-attaquer.
Vous avez contre-attaqué?
On a contre-attaqué là.
Qu'est-ce que vous pensiez des Allemands à ce moment-là?
Rien du tout.
Rien du tout.
Ni bon ni mauvais.
C'est très impressionnant et très émouvant d'écouter Bakary Diallo raconter son expérience des tranchées. On sait combien cette toute première expérience de la guerre moderne a été violente et sidérante pour les soldats, Marc Michel, et sans doute encore plus terrifiante pour des Africains pour qui tout est absolument inconnu et pas seulement la puissance du feu.
Je pense que c'était un choc d'une brutalité extraordinaire. Avec une petite différence, les soldats qui ont combattu comme Bakary, avec Bakary, c'était des gens qui venaient du Maroc. Ils avaient déjà une expérience de la guerre. Il dit à un moment, des Allemands, bon, j'en pensais rien du tout. Donc, il fallait se battre, c'était la guerre. C'était très simple. En France, c'était d'une brutalité encore plus extrême. Il s'agit d'ailleurs pas exactement de la France. Je pense que Bakary, qui venait du Maroc, fait allusion au combat de d'Ypres et d'Ixmude.
En Belgique, donc.
Oui, effectivement, les conditions de combat ont été terribles et les soldats africains, les tirailleurs sénégalais, ont résisté jusqu'au bout, littéralement massacrés par les Allemands.
Bakary Diallo ne fait pas partie de l'hécatombe des premiers mois de la guerre de 14, mais il est quand même blessé. Et malgré cette première blessure, il refuse de partir à l'arrière. Bakary Diallo va en effet se porter volontaire pour sortir et aller attaquer la tranchée allemande.
Où est-ce que vous avez été blessé? La première année, tout de suite?
J'ai été blessé le 3 novembre 1904.
Ah oui, ça n'a pas traîné.
Parce que nous étions des volontaires.
Ah oui?
Notre colonel avait demandé 12 tirailleurs sénégalais à être dirigé par un grade, un caporal sénégalais. Alors, le colonel s'est adressé à moi en me disant que je voudrais un caporal pour diriger ce groupe de volontaires à participer à l'opération du bataillon Rangé. Alors, il fallait attaquer. On est sorti en avant, on est sorti de tranchée, on s'est dépouillé. Alors nous sommes arrivés sur la première tranchée allemande. C'est un grand pas sur la première tranchée, il y avait des Allemands et on les voyait tirer. Et les Allemands aussi avaient déclenché leur tir de canon, puis alors les mitrailleuses, tout ça était quelque chose d'infernal. Mais il fallait faire. Alors nous sommes arrivés sur la première tranchée allemande. Alors là, j'étais blessé pour la deuxième fois.
La guerre infernale, nous dit Bakary Diallo, la proximité avec l'ennemi sur le champ de bataille en 1914, sur la ligne de front dans le nord-est de la France, racontée par le Sénégalais Bakary Diallo, c'est l'expérience de la guerre vécue par un tirailleur africain, une guerre qui n'est pas la sienne mais pour laquelle il montre un courage incroyable parce qu'on ne redira jamais assez l'enfer du champ de bataille, Marc Michel.
Oui, le mot enfer dans les combats est un mot qui convient totalement. Si on pense à ce qui est arrivé à Bakary Diallo, au Frémy, il a été blessé deux fois, la deuxième fois très grièvement à la mâchoire, et s'est retrouvé en infirmerie, la mâchoire fracassée, ça devait être une douleur épouvantable, et pour qu'il ne s'avale pas la langue, on lui a accroché la langue, je ne sais pas trop comment, mais pendant trois semaines il est resté comme ça, il a fallu sans doute l'humidifier constamment, mais ce type de blessure infligée par des balles, mais aussi des éclats d'obus, est absolument épouvantable. Et ce que vit le soldat de la Première Guerre mondiale, d'ailleurs pas seulement le soldat africain, tous les soldats, c'est l'épouvante d'une guerre de destruction massive par des moyens absolument inconnus jusque-là.
Alors justement, que dire de l'utilisation des soldats africains sur le front dans ce contexte de guerre où les états-majors de toute façon sont prêts à sacrifier jusqu'au dernier des soldats pour la gagner, cette Première Guerre mondiale, quel que soit pratiquement le nombre de sacrifiés pour la patrie. Qu'en est-il des soldats africains dans ce contexte ?
Alors en ce qui concerne le point précis des pertes, globalement non. Les Africains n'ont pas perdu plus que les fantassins en pourcentage de morts, à peu près un homme sur cinq, ce qui correspond absolument au pourcentage observable pour les fantassins français. Il faut distinguer d'ailleurs le fait que les fantassins ont perdu plus que les artilleurs, plus que les services d'intendance, évidemment. Donc si l'on peut comparer les choses, c'est des choses comparables. Les fantassins africains n'ont pas perdu plus que les fantassins français. Dans les opérations, évidemment, il y a eu des opérations où ils ont été littéralement massacrés, j'ai dit au début de la guerre, mais aussi, pas à Verdun, mais sur la Somme, au Chemin des Dames en 17 et bien entendu en 1918 dans la défense de Reims.
Tout a été mobilisé, les hommes, les matières premières, vous en savez quelque chose Marc Michel, vous avez beaucoup travaillé sur l'engrenage de l'Afrique dans la Grande Guerre, c'est le titre de votre livre. Quel bilan pourriez-vous faire au niveau bien sûr des hommes mais aussi en ce qui concerne toutes les matières premières ?
La guerre a été une insatiable dévoreuse d'hommes et dévoreuse de produits pour l'effort de guerre. Avec une évolution, une progression, un engrenage, mais un engrenage qui progresse dans l'horreur pour les hommes et dans l'effort pour la production. Le maximum de l'effort de guerre est évidemment à la fin de la guerre. Le dernier recrutement de la guerre est décidé par Clémenceau, qui nomme pour le réaliser le député du Sénégal, Blaise Diagne, commissaire de la République. Blaise Diagne réalise un recrutement de 63 000 hommes, le plus important de la guerre. Beaucoup de ces hommes ne viendront pas combattre en France d'ailleurs, parce que heureusement pour eux, on n'a pas eu le temps et les moyens de les transporter. Et puis, il fallait quand même une période d'instruction minimale au moins.
Marc-Michel, comment Blaise Diagne, donc le premier député noir de France, arrive-t-il à un tel succès ? Comment arrive-t-il à convaincre ?
Alors d'abord, Il faut se rendre compte que Blaise Diagne est le premier député noir d'Afrique. Il est élu en 1914, il est élu député du Sénégal et très très vite pendant la guerre il s'impose comme un orateur hors pair. Il n'est pas contre le principe de l'utilisation des soldats noirs, mais il est contre la manière de s'en servir. Et à la fin de la guerre, eh bien, il jouit d'une très grande aura, d'autant plus que c'est un franc-maçon de première importance. Et donc Blaise Diagne s'est imposé comme commissaire de la République. Sur place, il a utilisé toutes sortes de moyens et des promesses pour l'avenir, en particulier des promesses d'emploi réservé et pour les soldats méritants, entre guillemets, la suppression de l'indigénat. Donc toutes sortes de promesses, ça réussit, d'autant plus que les chefs se font la réflexion suivante. Il vaut mieux que ça soit nous qui collaborions, quitte à faire engager nos fils, dont on fera des officiers à titre temporaire au moins, plutôt que de voir revenir des tirailleurs après la guerre revendiquant leur propre place.
Alors nous retrouvons tout de suite un de ses fils, un des tirailleurs africains, Marc Michel, Bakary Diallo, sous l'arbre à palabre du village Mbala, près de Podor. Vous poursuivez votre conversation avec celui qui a été l'un des premiers à écrire son expérience de soldat dans son livre Force et Bonté. Mais cette fois, c'est bien la voix de Bakary Diallo que nous écoutons. Sa voix traverse le temps pour nous confier son expérience de guerre d'il y a tout juste 100 ans. Au fil de votre entretien, les questions se font de plus en plus intimes.
Monsieur Diallo, on dit qu'à Menton, à Marseille et à Fréjus, il y avait beaucoup de femmes blanches qui fréquentaient des tirailleurs sénégalais.
Oui, ça c'est possible.
C'est possible.
Mais ça, là, je n'ai rien à dire.
Il n'y a jamais de femmes noires qui sont venues en France.
Ah si, moi j'ai rencontré là-bas des femmes noires. Mais pas venu pour cela. Ah, mais des femmes noires qui étaient déjà en France,
qui
comme,
déjà
comme
en France.
Des bonnes.
Des Antillaises ou des Africaines?
Ah non, même j'ai eu une Sénégalaise là-bas.
C'est toujours au chapitre des questions indiscrètes.
Ouais.
Est-ce que les femmes françaises et les filles avaient peur des tirailleurs sénégalais? Est-ce que vous l'avez senti?
Ben, peut-être peur, parce que quand on ne connaît pas les hommes nouveaux qui arrivent, surtout noirs, alors qu'on est blanc. Forcément, il doit y avoir quelque chose, une manifestation intérieure. Mais
jamais on vous l'a fait sentir.
Moi, je n'ai jamais eu ça. Aucun tirailleur qui se plaignait de ça.
Aucun, oui.
Quand nous sommes débarqués à Sète, nous avons vu des jeunes filles, parce que c'est toujours des enfants qui commencent des choses comme ça, qui viennent nous serrer la main. En passant, ils nous serraient la main, ils retirent leur main, ils regardent si c'est le sang d'aller. Alors, mais, tu vois, je lui ai touché la main, mais ma main n'est pas loin. Alors, on riait comme ça. Mais c'est tout.
Question taboue que celle de la sexualité pendant la Grande Guerre, Marc Michel. Une question que Bakary Diallo évite, absolument.
Oh, disons que Bakary Diallo fait preuve d'une grande pudeur. Il n'a pas fait de confidence personnelle. Il est certain que des liaisons sont apparues pendant la guerre. Et puis, on a tout de même des témoignages. Bien entendu, il y a d'abord les témoignages iconographiques. Il y a une multitude de dessins, de caricatures, de photographies montrant la relation noire-blanche, mal vue d'ailleurs à la fin de la guerre par les Américains. Et puis, il y a un témoignage tout à fait exceptionnel sur cette sociabilité. C'est celui de Lucie Cousturier, qui, pendant toute la guerre, disons à partir de 1916, a accueilli chez elle des soldats noirs. Son livre est un magnifique témoignage très émouvant sur ses contacts.
Le témoignage de Bakary Diallo est également une véritable mine d'informations, Marc Michel, parce que c'est d'abord l'expérience d'un soldat, une première expérience combattante de la Grande Guerre, mais c'est surtout celle d'un tirailleur, une force noire pensée bien avant l'ouverture des hostilités par un Français, Charles Mangin, Marc Michel.
Ah, le général Mangin. Le voilà. Auréolé déjà au début de la guerre de son passé, la mission Marchand, Fashoda, la traversée de l'Afrique, de l'Atlantique au Nil, et un meneur d'hommes. Il est auréolé aussi par la prise de Marrakech en 1912, et enfin, il est auréolé parce qu'il a publié en 1910 un best-seller, La Force Noire, à l'origine de l'armée noire.
Et ce général Mangin, toute l'Afrique noire connaissait son nom, d'après Bakary Diallo.
Alors Mangin, le général Mangin, il était connu de tout noir et même toute l'Afrique noire.
De toute l'Afrique noire.
Toute l'Afrique noire connaissait le général Mangin. Il n'y a pas un coin de l'Afrique qui ignorait le nom du général Mangin.
Et quand Mangin, en 17, quand Mangin et Nivelle ont déclenché l'offensive du chemin des dames,
oui.
On a dit tout de même que Mangin et Nivelle avaient envoyé les tirailleurs sénégalais au moment où il y avait la neige, le froid, et puis que beaucoup de tirailleurs, la moitié au moins, avaient déjà les pieds gelés avant même l'assaut. Est-ce qu'à ce moment-là, vous ne trouvez pas
que... Mais ils faisaient bien. C'était la nécessité absolue qui commandait.
Mon Dieu.
Un général, à qui on confie un front pour la défense de la France, s'il ne sait pas agir, dans des circonstances difficiles, même s'il s'agit de perte de vie de ses soldats, mais pour vaincre, pour réussir à défendre sa patrie, il le fait.
C'est vrai que Mangin était un meneur d'hommes, un grand chef.
C'est un homme, j'ai dit dès le début que c'était un homme courageux, qui réfléchissait et qui savait agir.
Mais tout de même, moi je ne suis pas d'accord avec vous pour 1917.
Vous n'êtes pas d'accord avec moi, peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de commander.
Ah oui.
Un front.
Ça nous manque.
Si on vous donne le commandement d'un front, et vous risquez de gagner ou de perdre. Alors vous jouez votre carte. Et quelquefois, il faut être comme le général Mangin, il faut être décisif.
Il a été décisif en 1918.
Ah ouais, ouais. Partout où il a été, il était décisif. Hein.
Bon.
En Afrique comme en Europe, c'était un général au complet. Un général qui ne tergiversait pas devant son devoir.
Avec personne.
Avec personne. Et qui savait dire oui à un ministre ou lui dire non. Ouais. Même s'il est le ministre de la guerre.
Oui, bien sûr.
Pour défendre sa cause, sa position ou sa dignité. Son pays. C'est comme ça qu'était le général Mangin.
Et ce n'est pas tout, Marc-Michel. Bakary Diallo a rencontré en personne, vous le savez, le général Mangin et aussi Blaise Diagne, le premier député noir de France, responsable du recrutement des tirailleurs.
J'ai servi le Blaise Diagne, il m'a servi d'interprète, elle m'a interpellé toute sénégalaise, et dans l'hôtel Majestique à Marseille, en présence du général Mangin qui était venu exprès pour cela. Alors là, j'étais, n'est-ce pas, entre le général et le commissaire général.
Heureusement, parce qu'il ne s'entendait pas.
Je servais d'interprète à l'un et à l'autre.
Vous serviez d'interprète à l'un et à l'autre ?
À l'un et à l'autre. Quand le général parlait au tirailleur.
Oui, je comprends.
Je venais comme interprète. Et quand le commissaire général parlait aussi, je venais à l'interprète.
Mais justement, à propos de ce métier d'interprète, vous traduisiez en quelle langue ? En bambara ou en wolof, en tout couleur ?
Je parlais le français, le pol, le tout couleur, le wolof.
Mais beaucoup de tirailleurs n'étaient pas wolof, n'étaient pas...
Ah oui, mais on se comprenait toujours. Le tirailleur, quand vous êtes dans l'armée pendant 6 mois seulement, vous êtes obligé de parler l'une ou l'autre langue. Et très généralement, vous parlez le bambara,
oui.
Ou alors vous parlez le wolof.
Oui. Les sous-officiers étaient wolof, beaucoup.
Et oui, il y avait le sous-officier tout couleur, le sous-officier peul, le sous-officier wolof, tout. Le sous-officier bambara.
Oui, bambara.
Extraordinaire témoignage que celui de Bakary Diallo, parce qu'il a une langue extraordinaire et puis aussi beaucoup d'humour, Marc-Michel, mais aussi parce qu'il n'a pas un point de vue auquel on s'attend. Par exemple, on sent bien qu'il admire Charles Mangin pour ses talents de chef guerrier.
Oui, Mangin est le grand chef africain. Faut avouer que Mangin savait s'y prendre. Je ne sais pas jusqu'à quel point il les connaissait intimement. Personnellement, je ne crois pas vraiment qu'il allait jusqu'à l'intimité de ces hommes. Il se faisait surtout admirer et respecter.
Alors, comment analysez-vous le point de vue de Bakary Diallo? Parce que les écrits de guerre de Bakary Diallo, son livre « Force et bonté », ont souvent été taxés d'ambigus.
Oui, parce que c'est un livre complètement aliéné. Dans une certaine mesure, on pourrait dire que c'est un faux, parce que c'est tellement peu vrai, vraisemblable, qu'on dit ben, c'est pas possible, c'est pas lui qui a écrit ça. Et effectivement, beaucoup de polémiques ont couru sur ce livre, paru après la guerre, d'autant plus que le contexte d'après-guerre est très favorable à la polémique.
Justement, qu'est-ce qui ne semble pas vrai dans ce livre?
Le ton, c'est un force-bonté. Qui est la force? C'est la France. Qui est la bonté? C'est la France. Ceci dit, il dit au passage, mais la langue que j'entends en France n'est pas celle que j'entends dans la colonie. Ce qu'il a vu et éprouvé en France, c'est une solidarité, un fond d'égalitarisme à l'égard de ces soldats qui sont venus se battre alors qu'ils n'en avaient absolument aucune raison. Quand il retourne en Afrique, le rapport colonial revient avec l'humiliation, avec le racisme ambiant, l'exploitation, enfin, au moins l'imagination que tout est fondé sur le racisme et l'exploitation.
Est-ce qu'après cette expérience de la guerre, donc en Europe, quand ces combattants rentrent, est-ce qu'il y a un temps nouveau? Est-ce que les Africains continuent à justement accepter ce triomphalisme colonial?
C'est très difficile de répondre par des généralités. Il y a, après la guerre, incontestablement, naissance de sentiments nouveaux dans les élites. Il y a majoritairement dans les élites une volonté d'accéder à l'égalité civique pour commencer. Ce sont les partisans de Diagne, très importants au Sénégal, c'est les plus importants. Également importants au Dahomey, le Bénin actuel, importants aussi sur la côte, par exemple en Guinée, ce sont des élites qui appartiennent du point de vue social à la petite bourgeoisie de fonctionnaires pour l'essentiel. Et puis des émigrés, entre guillemets émigrés, ce sont des Français. Des Africains qui vivent en France, de nationalité française, et qui eux vont commencer à revendiquer contre le colonialisme. Et parmi eux, des jeunes gens, comme Lamine Senghor, comme Thomas Loukenom, qui vivent en France. Et puis, sur place, tout de même, l'essentiel de l'Afrique est encore composé de paysans, de l'Afrique française, mais c'est pareil ailleurs, est composé de paysans qui acceptent cet ordre, d'autant plus que les chefs y participent. Et la période de l'entre-deux-guerres peut être considérée en même temps qu'une période de naissance de sentiments nouveaux, la période de l'apogée de ce qu'un ancien administrateur a nommé l'apogée du roi de la brousse.
Dernier extrait, extrêmement touchant encore une fois, j'allais dire, de Bakary Diallo. Vous lui demandez s'il a vécu l'armistice de 18. Écoutez bien sa réponse, écoutons bien sa réponse. La voix de Bakary Diallo, tirailleur sénégalais sur RFI.
Et l'armistice? Vous l'avez vécu où, l'armistice?
L'armistice à Paris. C'était la joie. Le bonheur de voir cette catastrophe finir quand même.
Vous étiez adjoint en chef à l'époque?
À ce moment, j'étais adjudant.
Adjudant.
Alors, moi qui étais français, parce que quand on aime un pays et ses fils, et qu'on parle de sa langue, et qu'on y est directement accroché. Je me suis empressé de faire ma demande.
De citoyenneté?
Oui, pour bénéficier du droit de citoyen.
C'est le décret obtenu par Diagne.
C'est ça. Alors là, on m'a accepté. Je suis devenu citoyen français. Alors, j'ai changé de corps.
Ah, vous avez changé de corps?
Oui, le règlement militaire m'a fait changer de corps.
Et vous avez été dans quel...
Alors, le d'adjudant, attendez, d'adjudant, on m'a renvoyé au grade de caporal.
Pour commencer tout.
Au grade de caporal, en me disant que vous êtes caporal maintenant, mais à titre français. Alors, comme j'aimais avoir le titre français, j'ai accepté ça.
J'ai accepté ça, nous dit Bakary Diallo. Tout est dans le « j'ai accepté ça », Marc Michel. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est pas rien d'accepter d'être dégradé quand on a failli y passer sur le front pour une guerre qui n'est même pas la sienne.
Qu'il le mérite pas. Ce que je pense en écoutant cette fin de l'interview de Bakary Diallo, c'est évidemment une résignation, une certaine amertume. Et cette amertume a été ressentie par la suite, par beaucoup, à propos de la fameuse question des pensions. Question qui ressurgit régulièrement depuis les années 60 et qui, heureusement, semble être complètement résolue aujourd'hui. Il a obtenu la citoyenneté française. Qu'en a-t-il tiré? Eh bien, la question reste ouverte.
Merci Marc Michel et merci d'avoir confié à RFI, d'avoir confié à La Marche du Monde ce document exceptionnel, donc un tirailleur africain dans la Grande Guerre, Bakary Diallo. C'est une émission réalisée par Cécile Pompeani. Vous pouvez également la réécouter sur RFI.fr, nous écrire, podcaster, vous exprimer sur Facebook. Cette émission, c'est la vôtre.